Bonjour Nancy Houston.
Bonjour.
Vous êtes romancière, essayiste franco-canadienne. Vous publiez Francia, un roman aux éditions Actes Sud, un roman qui se déploie à Paris une journée, un dimanche de mai 2019, une journée dans la peau d'une héroïne transgenre au nom multiple Ruben Ruby, devenue Francia, originaire de la ville de Girardeau en Colombie, à Paris depuis 20 ans. Francia est une travailleuse du sexe. Elle se prostitue au bois de Boulogne où ses clients la connaissent sous un pseudonyme, le pseudonyme de Magda. C'est un exercice de liberté. Vous le dites d'ailleurs en prologue, vous dites que vous vous demandez de quel droit vous êtes glissé dans la peau d'un personnage, vous cite, qui vous ressemble si peu. C'est ça le métier de romancière selon vous, Nancy Houston ?
Tout à fait. Non, moi je ne me demande pas. Je dis que des gens pourraient me demander comment j'arrive, comment j'ose me glisser dans la peau de ce personnage-là. Mais en fait, on a beaucoup, beaucoup de choses en commun. Et la première chose importante, peut-être, c'est qu'on est des exilés, des expatriés. Et j'aime beaucoup camper des personnages d'expatriés à Paris. L'autre roman qui faisait ça, il y a une vingtaine d'années, c'était L'Empreinte de l'Ange. Et j'avais déjà eu la tentation de me glisser comme personnage parmi les figures du livre. Et là, cette fois-ci, je me permets de le faire. Je m'amuse beaucoup. J'apparais de temps en temps. Donc, nous sommes des étrangères, nous sommes des chimères, nous sommes des mélanges, nous sommes... ensuite, je dis, je suis une pute du cerveau, donc je suis prête à
Qu'est-ce
me mettre...
Qu'est-ce que c'est, une pute du cerveau?
Ça veut dire que je suis prête à me mettre en tandem avec tout ce qui passe, du moment que ça rapporte de la matière pour un livre. Donc, ça fait des années, effectivement, que je suis trans. Je me glisse dans la peau des hommes depuis 40 ans. C'est nécessaire. Je pense que tous les romanciers et romancières dignes de ce nom sont des trans, en fait.
Et la matière romanesque, c'est quelque chose qui rapporte dans le cas donc de Francia, avec une construction littéraire particulière dans ce livre. Vous alternez des chapitres où c'est elle, et puis le chapitre suivant, ce sont les clients de Francia, autrement dit ces hommes dont vous faites le portrait, Nancy Houston.
Oui, elle va recevoir 17 clients ce jour-là, qui est une très bonne journée par les temps qui courent, étant donné que ça se passe après la loi Hollande sur la pénalisation des clients. Et donc, elle acceptera 14. Et il fallait absolument, à mon sens, d'ailleurs le titre Francia, ça dit ça aussi, cette galerie de portraits, 17 hommes, c'est un petit peu la mosaïque peut-être de la France contemporaine, parce que quand j'ai interrogé les femmes travailleuses du sexe sur qui étaient les clients, même si je les voyais passer, bien sûr, dans le bois, la réponse systématique, c'est juste tout le monde. Et c'est l'omerta, en fait, au sujet de la prostitution. On parle toujours comme si dans toutes les représentations, on dirait que ça parle de sexualité féminine, alors qu'il n'est jamais question de sexualité féminine dans la prostitution, uniquement de sexualité masculine. Et on oublie ça. Donc, je ne montre pas les ébats, etc. Je fais un portrait de l'intérieur de la vie de cet homme qui va arriver, qui va rencontrer Francia. Il y a beaucoup de raisons différentes et ils viennent de différents pays, différents milieux sociaux. Ils ont... Je ne les dénonce pas du tout. J'empathise, voilà.
Donc ce sont des hommes comme tous les hommes, ce sont des hommes qui viennent dans les moments les plus anodins, je dirais, de leur existence. L'un d'entre eux va déjeuner chez ses parents et puis il s'arrête, il passe par le bois de Boulogne. L'autre vient avec une voiture à l'arrière de laquelle il y a un siège enfant. Bref, ce sont donc des hommes comme les autres. Nancy Houston, là aussi, comment les avez-vous imaginés? Quel exercice d'écriture avez-vous fait pour dépeindre ces hommes?
Eh bien, c'est un peu une phase magique de l'écriture. Toujours au début d'un livre, je reçois quelques ordres de mon daimon. Et ce jour-là, je ne parle pas de muse, moi j'ai un daimon. Et ce jour-là, il m'a dit, il y aura 17 et les voilà. Et j'ai écrit la liste des 17 et je n'en ai jamais dévié. Je reçois ça comme un ordre auquel je dois me plier. Ensuite, j'ai changé beaucoup la permutation, l'ordre des clients, ça dépendait de l'heure de la journée. C'était une construction assez complexe, parce que la vie de Francia aussi racontait, je parle de son enfance de petit garçon à Girardot, effectivement en Colombie, qui avance en ordre chronologique. Je parle de la journée qui avance en ordre chronologique, mais aussi de son installation à Paris. Et il y a tout ça à gérer comme écrivaine. C'était un tissage complexe.
Comment voit-elle son métier, Francia?
Personne ne va dire que c'est un métier banal, mais elle l'assume depuis très longtemps. Je pense que c'est un monde de toute façon qui est dur, mais peut-être c'est peut-être un petit peu moins dur pour les femmes trans que pour les femmes cis. J'en ai eu cette impression, mais c'est peut-être pas tout à fait vrai. En tout cas, les femmes latinas, d'après tout ce que j'ai pu comprendre du bois de Boulogne, elles n'ont pas de Mac, elles sont là parce qu'elles l'ont choisi. Elles envoient leur argent pour la plupart au pays pour aider leur famille. Et donc, c'est une nécessité, c'est une chose qui se passe comme ça. Elles ont l'abuela, je dis abuela, ça veut dire grand-mère, c'est le mot de Francia pour la marijuana. Donc, elles prennent différentes substances pour tenir le coup. Mais elles restent, dans l'ensemble, elles ont une sorte de niaque extraordinaire. Elles y vont, elles restent debout, elles se maquillent, elles se préservent du désespoir.
Vous avez eu l'idée de ce roman Nancy Houston au travers d'une maraude.
Oui, donc il y a plusieurs associations qui envoient des camionnettes jour et nuit, mais surtout la nuit, à travers le bois de Boulogne, peut-être le bois de Vincennes aussi, je connais moins. C'est une institution depuis des années. Et moi, j'ai suivi la camionnette de l'association Magdalena. Ils apportent du café, du thé, ils apportent des gâteaux, des petits gâteaux, des capotes, du lubrifiant, du réconfort, de la consolation, de la conversation. Et ça aide beaucoup.
Et justement, lorsque vous avez discuté avec ces femmes, je ne sais pas si vous l'aviez fait auparavant ou si c'est à la faveur donc de cette maraude que vous avez rencontré des travailleuses du sexe, qu'est-ce qui vous a frappé le plus, Nancy Houston ?
Mais je crois que ce qui me frappe, c'est ce que je disais à l'instant, c'est leur force intérieure et leur gentillesse. Je ne veux pas être mièvre, elles ne sont pas mièvres, elles ont beaucoup de caractère, mais il y a une sorte d'attitude de courage et une attitude positive et une communicabilité. Elles sont en échange les unes avec les autres. Et donc, comparées, par exemple, au métro parisien à l'heure de pointe, où la plupart des commerces qu'on fréquente à Paris, l'ambiance est plus sympathique, l'ambiance est plus chaleureuse.
Et ça, c'est quelque chose d'étonnant, parce que vous racontez finalement la solidarité chez ces femmes et une forme d'humanité qui existe dans votre roman, d'humanité qui existe aussi dans la vraie vie au travers d'un fait divers tragique, la mort de Vanessa Campos.
Il y a une solidarité magnifique cette nuit-là, qui est au mois d'août 2018. À cause de cette loi Hollande qui oblige les femmes de travailler de plus en plus loin dans le bois, donc dans des conditions de plus en plus dangereuses, une bande de voleurs égyptiens va décider d'embêter les gens qui protègent les affaires des clients. Ils ont commencé à voler les affaires des clients. Et donc finalement, ça dégénère et Vanessa comprend qu'elle est attaquée. Elle hurle « todas » et ça veut dire « toutes ». Voilà. Et les femmes affluent de toutes parts pour l'aider. Je crois que c'est vraiment important de comprendre qu'il n'y a aucune raison de mépriser les prostituées. S'il y a un personnage qui est universellement méprisé, ce sont les prostituées. Elles ne souhaitent évidemment pas être méprisées. Elles remplissent une fonction apparemment essentielle depuis des millénaires, puisque ça continue dans tous les pays du monde. Les clients sont masculins à 99%, donc il y a quelque chose qui correspond à un besoin réel. Elles répondent à ce besoin. Et si on ne les méprise pas, on les prend en pitié. Et elles détestent l'un autant que l'autre. Elles demandent de bonnes conditions pour exercer leur métier.
Vous dites que les prostituées, c'est comme les dentistes.
Ben ça, c'est Chrysalidis qui a eu cette phrase magnifique. Elle a dit, bien sûr, tout le monde voudrait d'un monde sans prostitution. On voudrait aussi d'un monde sans dentiste. Eh ben voilà, malheureusement, il y aura toujours des gens qui ont mal aux dents. Il y aura toujours des hommes qui ont mal à l'âme, disait-elle.
Et oui, parce que il est surtout question d'âme dans ce roman
absolument,
Nancy Houston.
Absolument. C'est ça le plus surprenant, peut-être. Ce n'est pas une question de simplement remplir une fonction, un besoin physique, physiologique, mais les hommes viennent pour toutes sortes de raisons, qui peuvent être aussi de la colère contre leur mère ou leur père ou leur épouse, ça peut être une tristesse, ça peut être le deuil, c'est extrêmement varié, et donc elles ne savent pas sur quel pied danser, mais elles dansent très bien et très vite, elles s'adaptent à toutes sortes de demandes, elles espèrent, et l'autre chose très frappante, c'est leur piété. Presque toutes les latinas, toutes les latinas sont catholiques, pratiquantes à peu près. D'autres femmes vont avoir d'autres gris-gris ou d'autres autels, d'autres images qu'elles vont prier. Mais toutes se donnent aussi de la force de cette façon-là. Et toutes prient pour avoir des clients nombreux et gentils.
Nancy Houston, votre beau roman Francia aux éditions Actes Sud. On se retrouve dans une vingtaine de minutes. On va évoquer avec vous aussi la littérature érotique avec Écrits érotiques de femmes. C'est une anthologie qui paraît aux éditions Bouquins sous la direction notamment de Camille Koskas qui sera avec nous. Et il est notamment question de Chrysalidis Réal que vous avez bien connue et sur laquelle vous avez écrit Nancy Houston. On en parle dans une vingtaine de minutes. Nous retrouvons notre invitée Nancy Houston, romancière. Vous publiez Francia aux éditions Actes Sud. Francia, c'est une journée dans l'existence d'une travailleuse du sexe transgenre qui travaille au Bois de Boulogne avec une construction qui offre en miroir à la fois donc ce que vit cette personne, mais aussi ce que vivent les hommes qui sont ses clients. Et nous recevons Camille Koskas. Bonjour Camille Koskas.
Bonjour.
Vous êtes professeur agrégé de lettres modernes et vous publiez avec Romain Henriquez une anthologie particulièrement impressionnante, Écrits érotiques de femmes, une nouvelle histoire du désir aux éditions Bouquins. Comment classeriez-vous Francia, le roman de Nancy Houston ?
Bonjour. Alors, le classer, je ne sais pas si cette question de classification est celle qui me viendrait à l'esprit. En tout cas, pour moi, elle résonne très fortement avec une partie de notre ouvrage qui est une partie consacrée à des écrits militants sur le désir, sur laquelle je pourrais revenir parce qu'elle s'est dessinée petit à petit et qu'elle ne s'est pas imposée tout de suite. Et c'est une partie dans laquelle nous avons abordé cette question de la prostitution. En partant avec pour point de départ, qui est, il me semble, un des fils de votre livre, l'idée que la prostitution, elle est omniprésente dans la littérature du 19e, elle obsède littéralement la fin du 19e siècle, mais que les témoignages de prostituées sont très rares. J'en connais un au 19e siècle, au 20e également, et celui de Marie-Thérèse, donc je crois que vous avez travaillé dessus.
Qui est Marie-Thérèse ?
Donc, qui est une prostituée dont les temps modernes font paraître un témoignage qui a été à l'époque censuré.
Qu'en pensez-vous, Nancy Houston ?
Oui, c'est un cas passionnant. C'était une infirmière normande, en fait, qui est tombée amoureuse d'un mac et qui l'a mise sur le trottoir. Elle a une histoire très, très haute en couleur parce qu'elle s'est prostituée aussi dans les lagers en Allemagne pendant la guerre. Et les temps modernes, Simone de Beauvoir, ont voulu prendre ça comme un document de témoignage brut sur la vie des femmes, la dureté de la vie des prostituées. Mais il fallait censurer des phrases qui disaient, par exemple, que les boches faisaient mieux l'amour que les Français. Ça, c'était insupportable. Donc, on enlevait des passages comme ça. Par ailleurs, le livre a circulé comme pornographie, donc et de façon complètement illégale, mais au moins ils n'ont pas censuré.
Et alors, la catégorie de livre militant pour Francia, pour votre roman, Nancy Houston ?
Pour moi, ce n'est pas du tout un livre militant, c'est l'histoire d'une femme, et c'est un personnage qui m'a complètement séduite moi-même. Je ne m'attendais pas à être aussi émue par quelqu'un de si différent de moi. C'est l'histoire de ce petit garçon qui grandit en Colombie avec un père violent, etc. Et ensuite qui va, à cause de la pauvreté, devoir aller à Bogota, devenir travesti, prostituée. Et ensuite, toute cette aventure. Donc moi, je peux avoir des opinions militantes par ailleurs, mais le livre, en tout cas, n'est pas... Pour moi, c'est véritablement un roman. C'est pour ça que je me sens aussi proche aussi des hommes.
Et puis, parmi justement ces écrits sur la prostitution ou de prostituées, il y a aussi une femme présente dans ces écrits érotiques de femmes que vous publiez aux éditions Bouquin, Camille Cosca, c'est que Nancy Houston connaît bien, c'est Griselidis Real. Peut-être quelques mots pour la présenter.
Oui, tout à fait. Alors juste, je reviens sur ce terme de militant dans lequel je comprends que vous ne vous reconnaissiez pas. En ce qui concerne notre travail, ce chapitre est consacré pour nous aux femmes qui ont écrit et qui considèrent que le désir, que la réalisation du désir n'est pas une pure aventure individuelle, mais qu'il y a une réflexion à mener d'ordre social et collectif.
Ça, c'est tellement vrai.
Sur les structures de la société qui en rendent possible la réalisation. D'où cette notion de militante qui est peut-être un peu rapide. Voilà. En tout cas, nous y avons effectivement intégré un extrait du carnet de bal d'une courtisane que j'ai découvert à cette occasion de Griselidis Real, qui est un témoignage passionnant, un agenda de Griselidis Real, qui fait preuve, donc avec des notations assez sèches, presque cliniques, mais qui en même temps fait preuve d'énormément d'humour et montre aussi à un moment, elle relève par exemple au sujet d'un de ses clients, il porte la même bague serpent que moi. Et donc on sent aussi tout d'un coup une espèce de connivence, de complicité avec le client. Et ce sont aussi ces va-et-vient que vous faites dans votre livre entre la figure de la prostituée et celle des clients que j'ai trouvé tout à fait passionnante.
Tous ces hommes qui ne s'empêchent pas, dont l'abbé Pierre, dont on parlait tout à l'heure. Griselidis savait très bien que lui aussi, il allait aux prostituées, comme les flics aussi, qui sont... censé être là pour soi-disant pénaliser les clients. J'ajoute juste entre parenthèses rapidement que dans tous les pays où on a décidé de pénaliser les clients, le taux de viol a augmenté. Il y a des études scientifiques qui le prouvent sans le moins l'ombre d'un doute.
Et il y a un mot que vous reprenez, une phrase que vous reprenez, Nancy Houston. Ce slogan, c'est « Notre corps, nous-mêmes ». Qu'est-ce qu'il signifie pour vous ? Pourquoi est-il important ?
C'est un vieux livre des années 70, Our Bodies, Ourselves. C'était un livre clé du militantisme féministe avant même mon arrivée en France. Et c'était le début de cette exigence des femmes de vivre leur propre désir, de contrôler leur contraception et ainsi de suite. Je me rappelle, j'avais fait une fois le rapprochement entre deux scènes classiques qui sont la drague et le racolage. La phrase typique de la drague, c'est l'homme dit « Je peux vous offrir un verre » et la femme sait qu'en fait il veut baiser. Dans le racolage, la femme dit « Tu viens chérie » et l'homme sait qu'en fait elle veut de l'argent. Et ce qui les rapproche, c'est que dans les deux cas, c'est l'homme qui a et le désir et l'argent. Et c'est très important, une anthologie comme celle-ci, qui est une véritable somme de 1400 pages, qui montre que la France est probablement de tous les pays du monde celui où le plus de femmes ont pu écrire sur le désir et leur corps.
Camille Koskas.
Moi, j'avais envie aussi d'ajouter, par rapport à cette question de la prostitution, quelque chose qui m'a beaucoup intéressée à la fois dans vos écrits, dans ceux de Griselidis Real, et puis je pensais aussi à Virginie Despentes. qui est cette question de la réappropriation du lien entre écriture et prostitution, que je trouve passionnant, puisque beaucoup de critiques misogynes, comme Rétif de la Bretonne, tonnaient quand une femme prenait la plume en les traitant...
Peut-être quelques mots sur Rétif de la Bretonne, pour le resituer.
Rétif de la Bretonne, qui est donc un auteur assez conservateur, va-t-on dire.
Du XVIIIe siècle.
Voilà, et qui tonnait quand une femme prenait la plume en la traitant de courtisane. Hein. Louise Labbé s'est attiré le même genre de remarques misogynes à la publication de ses sonnets. Et il me semble que, quand je lis par exemple Virginie Despentes, il y a la volonté, en revendiquant le fait de s'être prostituée, de faire le lien, de tisser ce lien de manière assez provocatrice, entre l'écriture et la prostitution, en revendiquant un terme que je trouve très intéressant, qui est le terme de femme publique. Voilà, que je trouve tout à fait intéressant dans notre optique.
J'ai lu aussi que vous aviez eu cette expérience littéraire, Nancy Houston, il y a quelques années, pour écrire justement à ce sujet. L'expérience d'un salon de massage.
Ah, mais ça, je l'ai fait il y a au moins 50 ans, avant de venir en France. Je faisais plein de petits boulots. J'étais quelqu'un de très, très casse-cou et je dirais peut-être dissocié déjà de mon corps, mais très, très curieuse. Déjà, j'avais fait plein de petits boulots et je suis allée pour travailler dans un salon de massage thaï. J'ai compris qu'en fait, il s'agissait de masturber les hommes et je me suis dit, voilà, je vais faire ça une fois pour voir. Et j'ai fait gicler 5 hommes au cours de l'après-midi. J'ai gagné beaucoup d'argent. J'ai écrit une nouvelle immédiatement que j'ai envoyée à de nombreuses magazines, etc. Et revues littéraires. Et ça n'a pas été publié, mais je le trouve encore tout à fait intéressant. Ce qui m'a frappée dans cette expérience, peut-être que ça m'aide encore à comprendre le phénomène aujourd'hui, c'est que les hommes ne voulaient pas être traités comme un tas de viande. Ils avaient à cœur de marquer ma mémoire. Ils me montraient des photos de leur maison, ou de leur femme, ou de leurs enfants. Ils me parlaient pour que je les retienne, pour que je vienne vers eux comme individus. Et c'est effectivement dans le carnet de bal de Chrysalidis. C'est très technique parfois, ce que tel ou tel client préfère. Mais on sent aussi elle comprend la nécessité de l'affection.
Dominikoskas?
Oui, bah effectivement, c'est ce que renvoient ces notations de Réal. Je pensais aussi, en écoutant votre l'expérience que vous relatez, au fait que c'est un autre élément que je trouve tout à fait intéressant dans votre livre et dans les travaux de Réal, c'est la différence de statut entre la prostituée et le client. Et cette image de la prostitution comme une identité figée, c'est un statut, on est prostitué, alors que de l'autre côté, il n'y a pas de statut de client, on va aux prostituées, et c'est une activité qui est considérée comme occasionnelle et qui ne définit pas une sexualité.
Mais il y a ça en argot, le micheton. C'est le client de la prostituée. C'est en tout cas une caricature.
C'est une caricature. On le voit peu. Si vous pensez aux milliards de représentations qu'il y a des prostituées, qui sont une sorte de vision vraiment fantasmée de la sexualité féminine. C'est pas autour de l'érotisme féminin à aucun moment. Mais vous pensez par exemple au tableau de Degas, des maisons closes. On voit toujours les femmes débraillées et les hommes en costard, 3 pièces avec...
Alors ça dépend, parce que chez Maupassant, chez Flaubert, il y a aussi des peintures, donc des clients... souvent d'ailleurs, qui sont des peintures assez dures pour ses clients. Et il y a dans ses écrits érotiques de femmes, Camille Koskas, cette anthologie que vous publiez, également une réflexion sur le désir de la femme. Qu'est-ce que justement on peut dire à ce sujet ?
Oui, alors c'est vrai que cette question m'a beaucoup, tourmentée, la question de la spécificité d'un érotisme féminin, puisque dans la mesure où nous publions une somme avec uniquement des plumes féminines, on peut en déduire qu'il y aurait une spécificité du désir féminin, thèse qui me gênait. quand j'ai commencé à travailler sur cet ouvrage. Et à présent, j'ai un peu changé d'opinion, même si évidemment il ne s'agit pas de lisser les textes de ces autrices au nom de leur identité féminine. Hein, nous avons cherché à en déployer la variété avec un plan thématique. Mais je pense que pour des conditions, en raison de conditions sociales et historiques, et de toutes les contraintes qui ont longtemps pesé sur le corps des femmes, des nombreux interdits, du poids des grossesses non désirées, de l'asymétrie entre comportements sexuels masculins et féminins, je pense que l'érotisme féminin s'est longtemps construit face à l'obstacle. Et que ça l'informe.
Nancy Houston, qu'est-ce que vous en pensez ?
L'important, c'est d'arrêter la dichotomie la maman et la putain. Oui. C'est vraiment ça. D'abord parce que la plupart des prostituées sont mères, et même beaucoup, beaucoup d'entre elles se prostituent pour entretenir leur famille, leurs enfants. Mais aussi parce que la maternité peut apporter des sensations érotiques extraordinaires, aussi bien pendant la grossesse qu'avec l'enfant dans les bras, etc. Donc, non, il n'y aurait pas un érotisme féminin, mais il faut parler de l'écrasement de ce désir pendant des siècles dans la plupart des pays du monde, par les religions, les trois monothéismes, parce que les hommes avaient besoin de savoir de qui ils étaient le père et à qui allaient les propriétés, et donc il fallait pas que les femmes soient adultères. On a vu hier qu'en Iran, ça va devenir à nouveau légal, ou en Afghanistan, de lapider les femmes adultères. Et ici en France, il y a une exigence encore aujourd'hui, probablement supérieure, de fidélité, de chasteté, de vertu et toutes ces conneries, pour les femmes que pour les hommes.
Et alors, justement, lorsque vous peignez à la fois donc le quotidien de cette prostituée dans Francia et ses clients, autrement dit le désir masculin, Nancy Houston, qu'est-ce qui, pour vous, ressort de ce désir masculin ? Est-ce que c'est un exemple ou différents exemples, puisque ces hommes, disiez-vous il y a quelques instants, c'est n'importe quel homme. Est-ce que ce sont des exemples, des illustrations de la domination masculine, de la détresse masculine, les deux ?
Il n'y a pas de... Ce ne sont pas là... Ils ne sont pas en tant qu'exemple, véritablement. C'est un échantillon, on va dire. La réponse, c'est que la plupart d'entre eux ont des comptes à régler avec la société aussi. Il y en a qui sont très violemment, qui expriment des choses très violentes contre l'Église catholique, par exemple, qui les a écrasés et qui a étouffé tout geste de spontanéité, toute joie physique depuis l'enfance. Mais c'est important aussi de ne pas voir le livre comme une attaque du catholicisme, puisque le personnage principal est très catholique, encore une fois.
Et puis de toute façon, vous le dites en introduction, Nancy Houston, c'est un roman dans lequel l'autrice, vous-même, est libre de faire ce qu'elle veut faire. Ce n'est pas une étude sociologique.
Pas du tout, mais j'espère que ça peut aussi changer le regard des gens sur ces femmes, parce que c'est encore une fois le mépris et la pitié et la colère contre ces femmes, ça fait énormément de mal. Et elles payent des impôts, elles remplissent un peu leur devoir de citoyenne et on ne leur donne pas des droits de citoyenne.
Camille Koskas, il y a aussi le désir lesbien dans cette anthologie que vous publiez, vous lui réservez une large place. Là aussi, que dire de ces textes ?
Alors, ces textes, nous avons effectivement choisi de les regrouper, notamment pour mettre en évidence ce moment très important du début du XXe siècle, où tout un groupe d'autrices se constitue autour de cette identité lesbienne. Mais nous avons aussi choisi de les entremêler dans d'autres parties thématiques consacrées, par exemple, à la nature ou à la géographie de l'érotisme, parce que nous souscrivons avec mon co-auteur aux propos de Monique Wittig, pour qui, quand on coupe un texte de son universalité, il soliloque et il perd de sa force. Donc il s'agissait pour nous à la fois de mettre en évidence une inflexion importante de l'histoire littéraire, mais aussi de permettre un dialogue constant entre ces différentes sexualités.
Alors, peut-être pour choisir un exemple ou quelques exemples de ce discours sur le désir lesbien, alors peut-être quelques mots sur Monique Wittig ou sur un autre de ses textes, une autre autrice.
Alors, oui, Monique Wittig, dans les années 70, elle se situe dans la continuité d'une autrice comme Violette Le Duc ou comme René Vivien, avec cette volonté de montrer un corps féminin qui n'est pas enjolivé, de détacher la sexualité lesbienne d'une image mutine, espiègle, et au contraire, de montrer le corps féminin dans sa dimension organique, on va dire, hein, et la jouissance, d'ailleurs, est présentée comme une éviscération.
Et peut-être une autre autrice dont vous voudriez parler sur le désir lesbien.
C'était pas sur la question. Enfin, moi, une autrice qui me tient à cœur, c'est Rachild.
Que vous allez nous présenter.
Oui. Alors, c'est pas exactement sur le désir lesbien, c'est plutôt sur l'inversion des rôles. Rachild, c'est une autrice qui fait une entrée fracassante sur la scène littéraire en 1884 avec Monsieur Vénus, qui fait scandale puisque il raconte la domination exercée par Raoul de Vénérande sur un jeune homme dont elle est amoureuse et dont elle fait littéralement son objet sexuel, y compris après sa mort où elle le garde comme une relique. Et je trouve que c'est passionnant parce que il y a donc une inversion des rôles traditionnellement distribués, mais on voit très bien que au rapport de genre se greffe un rapport qui est plus décisif encore, qui est un rapport de classe, puisqu'elle fait partie de l'aristocratie. Lui, c'est un petit fleuriste. Et on se demande, le livre explore les rapports entre genres de manière très ambiguë, puisqu'on se demande, est-ce que au début du XXe siècle, enfin à la fin du XIXe, pour s'émanciper, une femme doit-elle, se réapproprier les codes masculins, y compris dans leurs dimensions les plus stéréotypées.
Rappelle un peu Duras avec Yann Andrea.
Oui. Qu'est-ce que vous en pensez, Nancy Houston ?
Oui, c'est exceptionnel dans ce sens-là, effectivement, mais il n'y a pas de raison que les femmes ne puissent pas opprimer aussi.
Bien sûr, bien sûr.
Lorsque vous avez décidé d'écrire ce roman sur une prostituée transgenre, Nancy Houston, et bon, vous saviez qu'il y avait là aussi une prise de position. Alors, vous rejetiez le terme de militant tout à l'heure. Si je dis politique, parce que lorsqu'on veut changer le regard qu'on pose sur cette profession, il y a forcément un discours politique. C'est un thème qui est très présent et c'est ce que vous avez réussi à faire dans Francia. Et ça veut dire que vous pensez important que ce rôle de romancière vous permette de faire cela.
Oui, j'ai été aidée par beaucoup de gens, par les gens qui font les maraudes dans le bois de Boulogne, mais aussi en Colombie, par des gens qui m'ont amenée dans des quartiers où je n'aurais pas pu aller. Donc c'est, je vais pas dire c'est une œuvre collective, mais j'avais à cœur de ne pas trahir les gens qui m'ont aidée. Je leur ai soumis le manuscrit avant publication, y compris les travailleuses du sexe que j'avais interviewées pour être sûre d'avoir respecté leur...
Que vous ont-elles dit ?
Que ça correspondait à ce qu'elle vivait.
Merci beaucoup Nancy Houston d'avoir été avec nous. Francia, votre roman, publié aux éditions Actes Sud. Camille Koskaz, votre anthologie, coécrite avec Romain Henriquez, écrit érotique de femme, une nouvelle histoire du désir, c'est aux éditions Bouquins.